tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
Tsunami, tempête émotionnelle, chamboulement, bouleversement, autant de mots pour décrire l'arrivée de l'enfant dans la famille. C'est la troisième fois que nous penchons sur ce thème. Et pour cause, l'enfant est l'inconnu dans une équation non pas mathématique, mais humaine. Cette équation ne demande pas à être résolue, mais à être vécue. L'arrivée de l'enfant ouvre la porte à des changements que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne peut pas anticiper ni contrôler. Elle mélange un bonheur profond et une source de crainte. Comment, devant cet inconnu, se préparer? Quels sont les éléments que l'on peut anticiper, prévoir à minima? Comment conjuguer parentalité nouvelle et garde de l'enfant, son premier départ? Comment reprendre le travail, en chercher dans cette période où la découverte de la parentalité prend toute la place? Bonjour et bienvenue dans Parentalité Mon Amour. Aujourd'hui, nous sommes en direct et en public de la maison de quartier Saint-Nicolas à Romans. Nous fêtons 40e anniversaire de l'émission avec des professionnels, des parents ayant participé à l'émission tout au long de ces 7 années. Et je les salue. Ce magazine, loin de vouloir donner des solutions toutes faites, est là pour accompagner les parents, se poser des questions et parfois se rassurer en réalisant que la parentalité est une aventure singulière dans laquelle il faut se faire confiance. Pour échanger aujourd'hui, je reçois Caroline Bonneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère thématique petite enfance au sein de la CAF de la Drôme. À vos côtés, en face de vous plus exactement, Elsa Doré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référente relais petite enfance de la communauté de communes Crétois, pays de Saillant. J'ai bien... C'est ça,
c'est bien
vous
ça.
Êtes basée à Cré.
Oui.
En milieu d'émission, vous découvrirez Malika, maman de 3 petites filles. Elle m'a accueillie avec le café et les gâteaux. C'était un vrai beau moment. Aujourd'hui, un agenda un peu particulier. Il sera présenté par les professionnels autour de moi, notamment dans cette maison de quartier. Mais Isabelle Tormé de la CAF sera là avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et en face de vous, Stéphanie, bien entendu, de l'UDAF. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Vous êtes là toutes les deux parce que vous êtes les chevilles ouvrières de cette émission depuis longue date. Commençons cette émission par des témoignages de passants dans les rues de Valence. Il faisait pas chaud quand les témoignages ont été recueillis. Je leur ai demandé ce que représentait pour eux l'arrivée de l'enfant.
Une joie, une responsabilité, le futur, l'espoir.
Un grand bouleversement, une nouvelle organisation à mettre en place. Et puis aussi beaucoup de bonheur, hein, parce que l'arrivée d'un enfant, c'est beaucoup de joie.
Des grands changements dans l'organisation, dans le rythme, dans... la façon de vivre.
L'enfant, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, c'est toujours une perspective d'évoluer aussi en tant que personne. Parce qu'on apprend plein de choses avec des enfants.
Je pense à un changement radical de vie auquel plein de personnes ne sont pas forcément prêtes. Ça pose la question de la famille. Qu'est-ce que c'est la famille? Comment on fait famille aujourd'hui? Comment on fait famille autrement, j'espère? Pour pouvoir un peu changer les inégalités entre les hommes et les femmes, pour pouvoir avancer sur l'autonomie des enfants, qui puissent s'épanouir dans un monde un petit peu malade.
Je parlais de questionnements dans l'introduction, mais on les voit là, les questions, elles arrivent à la fin de ce micro-trottoir. Allez, je vous fais réagir toutes les deux. Elsa Doré, qu'est-ce que vous avez retenu? Je vois que vous avez écrit 2-3 mots.
Effectivement, je trouve que c'est une belle synthèse de voilà tout ce qu'on peut vivre en tant que nouveaux parents, avec tout le chamboulement qui va avec, l'organisation que ça demande. Et puis je dirais, on parle d'anticipation et d'adaptation. Et pour être très brève, je dirais qu'en fait, il faut anticiper de pouvoir s'adapter. Et voilà, c'est un peu ce sur quoi j'avais envie de réagir.
Anticiper de pouvoir s'adapter. Et des petits tips, comme on dit en anglais, des choses à faire. Il y en a pas mal dans les émissions. On est dans la 40e, puisqu'on m'a mis les bougies de l'anniversaire de l'émission devant moi. Dans toute la série, on peut découvrir comme ça des choses, peut-être pour anticiper un petit peu avant l'arrivée de l'enfant. Caroline Bonneau, vous avez noté vous aussi des mots sur ce micro-trottoir?
Oui, j'ai retenu la phrase « Avoir un enfant, c'est quand même une bonne nouvelle », ce qui veut bien dire qu'on en est heureux, mais qu'au quotidien, et on voit qu'effectivement, les éléments positifs sont vraiment en lien avec tout ce qu'on peut projeter aussi pour l'avenir de sa famille et son propre avenir, et les éléments qui semblent plus compliqués sont vraiment dans l'organisation quotidienne, donc je pense que l'anticipation de la capacité à s'adapter, effectivement, c'est, comme le dit Elsa, je pense que c'est la clé.
Alors Caroline Bonneau, vous m'avez parlé de votre arrivée, de l'arrivée de votre enfant, pardon, votre arrivée ici s'est bien passée. Vous m'avez parlé d'un changement d'identité, ça va très loin, et en même temps je pense que ceux qui nous écoutent sont d'accord avec ça. La reconnexion à ses propres émotions, et puis tout est à 300%. Il se matérialise comment ces 300%, alors que ce soit pour vous, et encore une fois ce que vous allez dire je pense parlera beaucoup.
Comment ils se matérialisent ces 300%? Bah, c'est effectivement, je pense qu'en termes de reconnexion à ses émotions, on ressent tout beaucoup plus fortement, à la fois les moments de joie et les moments peut-être plus difficiles, surtout dans les premières semaines avec les bouleversements du postpartum, qui sont physiques aussi chez la femme qui vient d'accoucher, mais qui sont pas que physiques, qui sont aussi psychologiques et qui concernent bien les deux parents. Donc cette notion de 300%, et puis aussi, je vois sur le quotidien, la moindre manifestation de l'enfant peut vraiment être perçue, comprise, interprétée, interrogée de manière très très forte. Et quand on repense à certaines choses avec le recul, on se dit « Oula, tout ça pour ça », sur certains éléments qui avaient paru très très importants à l'époque, enfin au moment où on l'a vécu. Et puis quand on prend avec le recul, on se dit « Oui, enfin bon, c'était pas non plus très très grave ». Voilà.
Vous parlez du postpartum, on en avait parlé au téléphone. C'est vrai que, on va dire que la maman, il y a le papa aussi, hein, on l'oublie pas. La maman, c'est un peu la mère de son enfant, et uniquement la mère de son enfant pendant quelques temps. On est d'accord avec ça. Donc, c'est des choses très concrètes finalement, quand même, qui sont réelles et qui ont des conséquences psychologiques. Et ce que je veux dire, c'est que ça se mesure vraiment. On est vraiment la maman de son enfant, beaucoup pour l'entourage et les autres, les amis. Il y a ça quand même qui est important de dire.
Oui, c'est sûr que quand il vient d'arriver, alors déjà, on a une période où on est en congé maternité, donc forcément, on est à la maison pour s'occuper de son enfant. C'est le principe du congé maternité, mais donc finalement, on est dans ce rôle en permanence, et donc on passe d'un moment où on avait un autre rôle et on passe à ce rôle de parent à 100%. Et donc il y a ce nouveau rôle à s'approprier et à jouer, et pleinement peut-être cette volonté aussi de reconnecter avec les autres rôles, mais ça dépend aussi beaucoup des mères, je pense. Voilà.
Alors il y a des choses que les professionnels que vous encadrez, avec lesquels vous travaillez, doivent dire aux parents, hein, dans ce qu'on dit là. Vous m'avez parlé de cette interaction, je n'avais pas forcément fait le lien, j'y avais pas pensé, cette interaction corporelle justement avec l'enfant au début, qui n'est pas une interaction humaine. Humaine dans le sens, comme on interagit là, nous ensemble, donc pas normal dans le sens interaction humaine. Est-ce que vous pouvez aller juste un peu plus loin là-dessus et peut-être voir comment ça, effectivement, on essaye aussi de rassurer, parce que c'est un travail de longue haleine pour arriver à l'interaction humaine. Il faut dépasser ça, en fait, cette interaction corporelle.
Oui, en fait, c'est vrai que quand on parle de l'arrivée d'un enfant, la naissance d'un bébé, souvent une des premières réactions qu'on va entendre, ça va être de dire « mais tu verras, quand ils sont petits, ça passe tellement vite, ils se développent tellement vite, ça va à toute allure ». C'est vrai, mais pas les premiers mois, en fait. Les premiers mois, les premières semaines, on est sur un enfant qui vient d'arriver au monde, qui découvre la gravité, qui doit déjà se déplier, comprendre ce que c'est la faim, le froid, la soif. Enfin,
ça en fait des choses.
Ça fait beaucoup de choses pour un tout petit être qui vient d'arriver. Et donc, c'est pas sur les premiers mois qu'on va voir le développement psychomoteur très spectaculaire. Ça va arriver après. Ça va plutôt arriver vers 4, 5, 6 mois. Et donc, finalement, ces 4 premiers mois peuvent être, je me dis un peu, enfin moi je sais que je l'avais pensé comme ça à l'époque, je l'avais vécu un peu comme ça, un peu frustrant, où on donne beaucoup de sa personne, on donne beaucoup avec le corps, On est beaucoup dans le soin à l'enfant, hein, vraiment les soins primaires. Et puis, bah, finalement, toute la partie un peu plus fun, j'aurais envie de dire, où on les voit voilà, commencer à bouger, etc. Ça vient après. Alors, on est récompensé 30 000 fois pour tout ce qu'on a donné avant. Mais voilà, il y a ce moment peut-être où on a l'impression de donner beaucoup et où l'enfant, bah, lui, il est déjà en train d'essayer de comprendre où il est. Il atterrit. Voilà. Rien que il faut penser à la gravité. Il faut penser ça. Juste ça et la sensation de chaud et de froid. Enfin, juste des choses comme ça. Bon, bah, lui, il est déjà là-dessus. Donc, il faut lui laisser le temps d'arriver à autre chose, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir lui donner ce temps et ça demande beaucoup aux parents aussi. Voilà.
Alors, je reviens juste, je fais le pont avec notre invitée qui sera là tout à l'heure, Elsa Doré. Il y a plein de lieux, plein de professionnels à aller voir pour faire en sorte de se sentir pas tout seul dans tout ça, parce que ce qu'on vient de dépeindre est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas, cacher cette réalité. Au contraire, faut en parler. Il y en a peut-être qui ont souri, mais effectivement, on verra avec Elsa Doré tout à l'heure comment le relais petite enfance accueille ses parents finalement et les questionnements qui peuvent s'en dégager et puis les solutions qu'on peut leur donner là-bas. J'ai juste envie de faire sourire parce que on peut aussi partir de la maison quand on est maman, 5 minutes, 10 minutes. Vous m'avez dit, on peut aller chercher une pizza. Ça ressemble à une véritable délivrance, les 5 minutes de la pizza. J'ai trouvé cet exemple assez sympa. Voilà, allez vous prendre une petite pizza, calzone ou autre. Et ça peut faire du bien. On est d'accord là-dessus. C'est du vécu, je crois, Caroline Monod.
En fait, c'est vrai que j'ai eu ce vécu personnel où un jour, j'allais chercher les pizzas. Voilà, bon, bref. Et je me suis dit, ah, c'est super, je suis dehors, c'est génial. Et en même temps, je me suis dit, oula, Caroline, là, je crois que tu as besoin de sortir un peu plus. Ça, et puis la première fois que j'ai refait du vélo aussi, pour moi, ça a été vraiment la libération, alors que vraiment, j'allais pas loin du tout, mais juste de pouvoir remonter sur mon vélo, qui est mon mode de transport habituel, ça, c'était vraiment très très bien.
Ça arrive petit à petit, faut être patient, hein. C'est le temps, mais le temps il construit tout, je crois, et là effectivement après on arrive dans ces choses-là où on reprend plaisir à faire les choses. Vous travaillez donc dans un service, je disais, qui chapeaute un petit peu beaucoup de structures autour de la parentalité, les crèches, les collectifs c'est votre service qui est autour des crèches, des relais petite enfance aussi, pour la CAF de la Drôme. En gros, vous êtes un peu le point d'ancrage finalement pour les parents et pour se repérer dans tout ce qui est ce début et cette arrivée. Je parlais de tsunami tout à l'heure de l'enfant. J'ai parlé dans l'introduction de la garde. J'ai l'impression que tout se cristallise là-dessus. En tout cas, beaucoup de choses avant même conception d'un enfant, on réfléchit à comment on va le faire garder. C'est donc un gros problème ou une solution, je ne sais pas. Alors, il y a différentes choses, il y a différents modes de garde, mais quelles sont les peurs que vous voyez remonter des professionnels, que donnent les parents, qu'est-ce qu'ils disent ces parents par rapport à ces modes de garde? Pourquoi autant de crispation là-dessus?
Alors, je pense qu'il y a déjà la peur de ne pas avoir une place, ça c'est la première qui revient tout le temps, et puis la peur d'en trouver une mais qui ne convienne pas. Et ça ne se passe pas bien. Je pense que c'est les deux choses qu'on retrouve le plus. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de réassurance à faire, de se dire, mais en fait, parce qu'en plus, quand on pense peur de ne pas avoir de place, on pense peur de ne pas avoir de place en crèche, souvent. Mais il n'y a pas que la crèche, il y a différentes sortes de crèches. Et général, on peut finir par trouver une solution adaptée à son besoin. L'important, c'est effectivement de l'anticiper. Alors, c'est toujours un peu compliqué, on va se dire, mais je me suis même pas déjà détachée de mon enfant, voire il n'est même pas encore né, qu'il faut déjà que je pense à m'en séparer. Donc, c'est ça qui aussi, je pense, c'est pas exprimé comme ça par les parents, mais je pense qu'il y a ça qui se cristallise là-dedans aussi. Mais en tout cas, c'est important de l'anticiper même dès la grossesse, puisque ça permet ensuite de passer les premières semaines, une fois que l'enfant est né, ou les premiers mois, sans avoir à se prendre la tête avec ça. Puisqu'en fait, il y a déjà assez de choses à penser comme ça pour pas en rajouter avec ce sujet-là. Et je le dirais, même si dans le projet de la famille, le projet, c'est plutôt de se dire au début, congé parental, l'enfant, on le confiera à quelqu'un d'autre que quand il aura un an. Oui, mais c'est quand même bien d'y penser d'y penser assez tôt, je pense, parce que après, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment va être le quotidien, on ne sait pas ce que ça va donner. Finalement, peut-être que le projet de congé parental, il va évoluer vers autre chose ou pas. Mais bon, au moins, si on a commencé à se renseigner sur les possibilités, c'est plus facile d'aborder les choses sereinement le moment où on a besoin de le concrétiser.
On parlera des crèches tout à l'heure avec Azadoré, puisque vous orientez aussi, vous travaillez beaucoup avec les crèches, on verra comment on y va. Sur les assistantes maternelles, vous m'avez dit, quand on s'est eu, justement, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de choix, hein, c'est un choix qui se pose, qui doit être source de tension dans le couple aussi, et on n'a pas besoin de ça, de rajouter ça, que le choix ne doit pas se faire forcément en fonction, pour les assistantes maternelles, en fonction des aspects matériels de quand on va visiter une assistante, mais plutôt sur un projet. Alors, c'est quoi un projet cohérent qui a du sens? Si on peut peut-être donner des idées un peu générales, génériques aux parents, est-ce qu'il y a une obligation de l'assistante maternelle à fournir un tel projet? Qu'est-ce que vous entendez derrière projet?
Alors, les assistantes maternelles doivent normalement avoir un projet d'accueil. Après, je dirais quand c'est pas forcément... Pour les parents qui cherchent une assistante maternelle, ce qui est important, je pense, enfin, c'est pas forcément de se focaliser uniquement sur est-ce qu'elle habite à côté de chez moi et est-ce qu'elle fait de telle heure à telle heure, mais c'est aussi est-ce que quand j'échange avec la personne sur qu'elle me parle de la façon dont elle conduit ses journées, comment elle organise l'accueil, qu'est-ce qu'elle fait avec les enfants, est-ce que moi j'y vois mon enfant? Est-ce que je vois mon enfant à cet endroit-là? Est-ce que je me dis que quand il y sera, j'y penserai dans ma journée, j'aurai un petit sourire en y pensant, ou est-ce que mon cœur se serrera? Voilà. Donc c'est plutôt c'est ça. Est-ce que j'arrive à projeter mon enfant chez cette personne, et est-ce que j'arrive à me projeter moi l'amenant le matin et le ramenant le soir? En toute sérénité.
On verra justement, Elsa, comment vous êtes là aussi pour aiguiller ses parents, les aider avec des ateliers. Vous pouvez vous discuter avec eux. On verra comment vous fonctionnez, vous, dans le. Je vais y arriver dans le relais petite enfance. Mais on arrive donc à la fin de notre entretien. Vous restez avec nous, bien sûr, Caroline Bonneau. Je voudrais juste rappeler qu'au-delà de l'arrivée de l'enfant, c'est important de dire que vos services, donc les services aux familles de la CAF accompagne les familles de la naissance jusqu'à l'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé dans la petite enfance, mais ces services ont un prolongement jusqu'au départ de l'enfant. Donc des professionnels sont là. Encore une fois, il y a 39 émissions derrière nous et peut-être une 40e si on arrive à la terminer, mais je pense que ça devrait bien se passer, pour peut-être se référer et voir qui est là sur le territoire pour avancer dans cette belle aventure qu'est l'arrivée de l'enfant. Je vais laisser mon ami Raph qui est là depuis 40 émissions avec moi. Ah non, il a pas de micro, alors je vais devoir dire le morceau, je vais essayer de bien le dire. On va écouter tout de suite Ibibio Sound Machine avec Mama Say.
l'intégralité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Et on pourrait dire la 40e. Voilà, donc 40 émissions que l'on propose, cet outil pour les parents, pour les jeunes aussi qui peuvent écouter, parce que parfois on a des ados comme ça qui viennent témoigner. Vous le verrez si vous réécoutez les anciens podcasts. Je vous propose pour l'heure que l'on se rende chez Malika. Elle est maman de trois petites filles et elle nous parle de leur arrivée dans sa vie.
Je m'appelle Malika, maman de trois enfants, 8 ans, 3 ans et 2 ans. Tout de suite, quand je me suis mariée, quelques mois après, j'ai voulu avoir un enfant. Un enfant, c'est une responsabilité, donc c'est pas, ça vient pas comme ça, quoi. Au début, ben, ça fait peur. Je suis issue d'une grande famille, 4 frères et une sœur. Et du coup, j'ai beaucoup de neveux et nièces avant que moi, je ramène mes propres enfants. Mais bon, son propre enfant, c'est pas pareil. La première grossesse, elle a été très difficile pour moi. Donc, dû le fait qu'ils ont 5 ans d'écart, ma grande et ma moyenne, parce que j'avais plus envie après forcément d'avoir... Enfin, j'avais peur de tout, de pouvoir gérer encore un deuxième enfant. Plus l'accouchement, c'était très difficile de la première. Donc voilà, j'avais peur aussi de ça. Un accouchement difficile pour moi, c'est 48 heures de déclenchement. Et à la fin, ben, c'était soit le dernier déclenchement il marche, soit c'était une césarienne. C'est vrai que ça fait peur. La césarienne, on ne sait pas à quoi s'attendre, surtout le après, je pense. Peut-être pas sur le coup, parce que je crois qu'on ne sent rien, mais le après, ça fait peur, quoi. Mmh. Après, quand on a son enfant dans les bras, ça, voilà, on n'y pense plus. Ça part, c'est ça la magie, et donc ça, c'est pour ça qu'on en fait d'autres, sinon on n'en ferait plus. Avant la grossesse, j'ai pas trop pensé à ce qu'il fallait faire, enfin tout ce qui était administratif ou qu'est-ce que le bébé avait besoin. Après, pendant la grossesse, ben vu qu'on est dedans, forcément, ben on est obligé de préparer ben tout ce qui va avec. Mais après, en mode administratif, à la maternité, donc ils viennent, et ils s'occupent de tout. Donc après, il y a rien d'autre à faire à part le papa qui va qui déclare son enfant auprès de la mairie et tout. Mais après, nous, c'est vrai qu'on est bien quand même pris en charge déjà à la maternité. J'ai pas eu besoin de mode de garde les premiers temps parce que moi, je travaillais pas. Mon ex-conjoint était, salarié dans son entreprise. Donc, pas besoin de la faire garder. Et surtout, la première, j'avais envie quand même de bien profiter d'elle, quoi. Et après, ben non, du coup, parce qu'elle est rentrée à l'école. Quand j'ai eu une place en crèche, par contre, et ben justement, c'était l'année où elle rentrait à l'école. De toute façon, pour avoir une place en crèche, c'est dès la grossesse qu'il faut monter le dossier de demande. Et après, ben, on est contacté en fonction ben, des disponibilités, en fonction aussi de nous, enfin, si on travaille ou pas, s'il y a de la place ou pas. Donc, tout dépend de beaucoup de choses. Moi, quand j'ai été contactée, c'est vrai que c'était pour septembre 2019, quand ma fille est rentrée à l'école, quoi. Sa première année d'école. Du coup, pour les autres, ça a été, c'est vrai, le plus facile. Donc, c'est pareil, le processus, il change pas. Donc, on fait la demande quand on est enceinte. Et après, du coup, par contre, ça a été plus rapide, mais avec un peu quand même d'aide de l'assistante CAF. Et parce que aussi, il y avait la situation qui faisait que j'étais en séparation. Donc, du coup, que ça jouait beaucoup. Donc, moi, ma fille, ma deuxième, elle a été en crèche à Romans, dans une crèche privée, et après elle a été en crèche publique à Clérieux. Donc ça fait, en fait, une fois qu'elle rentre en crèche, après c'est plus facile où on déménage de la rentrer dans la crèche de là où on habite, quoi. Moi, je trouve que la crèche, ça, contrairement à ma première, j'ai vu beaucoup de différences, en fait, du coup, entre les deux, pour l'autonomie, pour tout manger tout seul, ça les fait grandir plus vite, quoi. Et la troisième, eh ben, elle a suivi la deuxième, du coup, parce qu'elles ont que un an d'écart. Ça les a aidées, ça m'a aidée moi aussi. Quand on se sépare, c'est une nouvelle vie, on reprend tout d'à zéro. Donc surtout moi, il a fallu que je prenne un appartement à moi toute seule, le meubler, donc m'occuper de mes enfants, de les changer d'école, de crèche. Donc on recommence tout à zéro. L'arrivée de l'enfant dans ma vie, au début, c'est vrai que ça fait peur parce que c'est une responsabilité. Mais après, ben, on fait avec, on suit le cours. Et puis après, chaque enfant est différent, chaque grossesse est différente et chaque évolution aussi de chaque enfant est différente. Donc, mais après, il faut les vouloir aussi pour pouvoir bien les gérer. Les parents, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer aussi avec eux. Mmh. Ça nous fait vieillir aussi parce qu'on prend de l'âge. Du coup. Quand on est maman solo, on a peur justement avec les enfants de se retrouver enfin toute seule, de pouvoir enfin de les gérer tout seul. Et du coup, on se dit est-ce qu'on va être capable ou non d'arriver à les éduquer, à leur donner une bonne éducation. Donc, et en fait, oui, tout est possible. Donc, quand on a la volonté, on peut le faire.
Vous êtes toujours dans Parentalité, mon amour, et je remercie Malika de m'avoir reçu et d'avoir témoigné. Je ne réagis pas en premier sur les portraits, je laisse réagir mes invités, mais là, j'ai entendu beaucoup le mot peur. J'ai envie de dire vos métiers, vous êtes là beaucoup pour rassurer toutes les deux. Quand on entend autant de fois ce mot peur, Caroline Bonneau, vous l'avez peut-être noté d'ailleurs, ce mot, vous l'avez peut-être souligné, je ne sais pas, mais il est là, hein, il est présent.
Oui, c'est le premier mot que j'ai noté, moi aussi. Effectivement, la peur, c'est vrai qu'on est là aussi pour proposer des accompagnements pour pouvoir aider à faire face. Alors, il y a des choses qui ne relèvent pas, voilà, l'accouchement difficile. Bon, ça, c'est effectivement, comme elle le dit très bien d'ailleurs à la fin, chaque histoire est singulière et différente, et même pour une même personne, plusieurs histoires peuvent être différentes, heureusement. Je voulais juste m'arrêter sur une phrase, c'était j'ai pas eu besoin de place en crèche parce que je ne travaillais pas, pour dire les crèches c'est pas que pour les gens qui travaillent, et vraiment c'est enfin, et comme elle le pointe aussi, elle voit la différence entre sa première et ses deux suivants d'enfants, des bienfaits qu'a eu la place en crèche pour pouvoir aider ses enfants dans leur autonomie et dans les apprentissages préscolaires en fait, et puis dans l'apprentissage du quotidien. Je pense que c'est important, voilà, d'insister sur le fait que la crèche n'est pas que pour les parents qui travaillent, et qu'il y a aussi des possibilités, notamment de faire garder son enfant de manière occasionnelle, voilà, de le mettre un ou deux jours par semaine, et c'est important aussi de pouvoir avoir ça en tête.
On le verra avec Elsa Doré après la pause musicale, comme on dit dans le milieu, mais je voudrais vous faire réagir d'abord sur ce que vous avez entendu là. Bien entendu, on parlera de l'emploi, de la formation, et on verra comment, quand on n'est pas en emploi, on peut effectivement mettre son enfant en crèche et bénéficier de ponts avec notamment France Travail. Juste peut-être une réaction des mots que vous avez notés, vous.
Oui, effectivement, moi j'ai noté le fait d'accueillir les émotions, c'est-à-dire qu'il y a un parcours individuel, un cheminement qui va se faire du fait du vécu, qui va être différent pour chaque grossesse, pour chaque arrivée d'enfant, pour chaque fratrie qui va se construire. Et voilà, en tant que professionnel de la petite enfance, on est formé et on est disponible pour pouvoir accueillir ces émotions et ces parcours spécifiques pour accompagner au mieux chacun.
C'est ça, être dans l'accompagnement, c'est important. En tout cas, on voit chez Malika que tout cela, que ce soit la garde en crèche ou elle avec la parentalité, ça fait grandir, hein. Elle le dit deux fois, autant pour les enfants que pour elle. Je vous propose alors de partir en musique, et c'est pas Raphaël qui, encore une fois, qui va présenter le morceau, mais je vais essayer d'être bon. C'est quoi ? Je crois que c'est comme ça qu'on dit, K-O-2-I, Confidence Cosmic Chill. Thank you.
not a troublemaker. Just need more open space to ease your soul and anger. Come in my bubble and maker. Create your open space and spread your wings again.
Vous êtes de retour dans Parentalité, mon amour. Je regarde les bougies devant moi. C'est donc la 40e. On y est arrivé. C'est pas mal. Et on va continuer avec plein d'émissions puisque c'est un outil. J'ai l'impression que l'on crée au fil du temps avec tous ces professionnels qui travaillent dans la parentalité. Avant de parler avec Elsa Doré, qui est référente relais petite enfance de la communauté de communes Crétoy, Pays de Saillant, je vous propose de faire un nouveau tour dans la rue pour écouter des passants. Je leur ai posé la question de comment faire pour ne pas se laisser submerger par les métaphores avec les événements naturels, par le tsunami qui est l'arrivée d'un enfant.
Être bien organisé, entouré, avoir des connaissances et de la motivation et de l'amour.
Il faut avoir quand même une certaine organisation. Puis quand on en a déjà, donc on sait aussi à quoi s'attendre, donc c'est plus simple. Mais quand c'est le premier, c'est vrai qu'on peut se tourner aussi vers des institutions. Il y a toujours des choses pour soutenir. Moi je dis, à chaque problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Il faut essayer de trouver des petits rituels, s'organiser dans sa journée par rapport au rythme de l'enfant, faire en fonction de lui, quoi, surtout.
Eh ben, je pense qu'il faut pas hésiter à demander des conseils et du support à la famille et aux amis qui sont auprès de nous.
Je pense que ce qui est très important, c'est de réussir à être entouré et de s'entourer de personnes ressources différentes. Moi, je pense que c'est très important de solliciter les amis et des personnes qu'on n'a pas l'habitude de solliciter forcément avec la parentalité, parce que ça évite d'être isolé et ça permet aussi de construire des repères et des références différentes pour les enfants et réussir à juste douter et accepter qu'on ne sera jamais des parents parfaits ni des enfants parfaits et bien vivre ça, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ils se mettent beaucoup la pression et la société met beaucoup la pression sur le rôle des parents et leur responsabilité de bien faire. Je pense qu'il faut réussir à détacher de ça un peu.
Caroline Monod, je vous ai vu hocher la tête sur on n'est pas les parents parfaits et douter, je crois. Vous l'avez noté, je pense que c'est pareil du côté d'Elsa. Alors, deux mots avant de partir sur le lieu à créer Relais Petite Enfance. Caroline.
Oui, bah c'est le grand atout, je trouve, de travailler dans la petite enfance, c'est que je ne me mets pas de pression puisque je sais que c'est impossible d'être un parent parfait. Donc voilà, faut arrêter de croire qu'on peut maîtriser tout sur tout, c'est impossible. Puis même si on maîtrisait, l'enfant il pourrait plus rien tester, ce serait une catastrophe. Donc voilà, on peut pas être parfait, faut pas se mettre la pression là-dessus et faut faire avec. Et l'important d'être entouré, je pense que ça c'est très très important.
entourés. On l'est aujourd'hui autour de la table. Donc Elsa Doré, référente du relais Petite Enfance. Deux mots sur ce que vous avez entendu là.
Eh bien oui, il y a organisation qui ressort beaucoup, mais effectivement être entouré, pouvoir et enfin connaître les services qui existent, qu'est-ce qui est à disposition autour de soi pour ne pas être seul et avoir déjà des outils, des billes si jamais il y a besoin. Voilà.
Alors, quelle est selon vous, je vais revenir à l'arrivée de l'enfant, quelle est selon vous la définition de l'arrivée d'un enfant dans une famille? Vous m'avez parlé, hors micro, d'inconnue grisante. Je trouvais ça assez intéressant, cette inconnue grisante. On sait pas ce que c'est, mais quand même, c'est cool.
Ben oui, parce qu'on en parle, on baigne dedans depuis tout petit. Enfin, on a notre part d'enfant qui reste en nous, et puis... Et puis les projets d'enfants qui se préparent plus ou moins, qui sont plus ou moins des surprises, etc. Et par contre, bah effectivement, une fois que la grossesse est connue, on sait que ça va arriver, on ne sait pas trop comment. Il y a une part d'incertitude, d'inconnu, enfin que moi j'ai vécu en tout cas comme grisante, parce que c'était un beau projet qui allait se réaliser.
Et après, vous m'avez dit, on bascule à l'arrivée effective, dans les besoins, l'urgence, les solutions de garde, c'est ce que vous m'avez dit, mais là on parlait plutôt de vous, et surtout les difficultés à se projeter, parce que ça va trop vite en fait, c'est ça, c'est ces 300% de Caroline Monod tout à l'heure finalement.
Eh ben oui, c'est ça, c'est qu'on essaye d'anticiper au maximum, pas forcément au bon endroit, pas forcément au bon moment sur les bonnes choses, et voilà, d'où ce que je disais, effectivement, de pouvoir se... s'outiller en amont pour connaître ce qui existe. Et puis effectivement, voilà, autour de soi, les amis, la famille, ça reste aussi des ressources hyper importantes, même si c'est juste pour voilà, se promener, boire un café.
Alors, depuis le début, on parle de changement, de bouleversement. Chez vous, ça a été le déménagement. Vous avez déménagé à l'arrivée de votre fille. C'est un changement profond, en fait,
oui.
Que l'arrivée de la parentalité provoque.
Oui.
Quelles étaient les raisons? Alors, la parentalité, on l'a compris, mais pourquoi? Pourquoi ne pas avoir sa parentalité au même endroit?
Eh bien, pour ma situation, c'était vraiment un besoin de retour à la nature. C'est-à-dire que c'est arrivé un petit peu comme une évidence où en famille, on s'était installé là où on avait terminé nos études. Et avec l'arrivée de notre fille, ben, les tours du pâté de maison, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, c'était une évidence de pouvoir revenir aux sources et à la nature. Voilà.
Alors, on va parler hein, du relais Petite Enfance, de voir comment c'est un guichet unique, c'est un endroit où vous pouvez finalement tout trouver, en tout cas avancer beaucoup sur l'inconnu, sur ses doutes. Mais avant, je voudrais rassurer les parents, parce que vous m'avez dit que le fait d'être professionnel de l'enfance ne vous a fait gagner, pas du tout gagner en légitimité dans votre parentalité, finalement. Ça vous a pas apporté plus, on est d'accord. Hein.
Absolument
pas mieux placé
pas.
Que les autres.
Voire même, j'avais pas anticipé ça, mais ça m'a mis en difficulté. Parce que beaucoup de personnes autour de moi, quel que soit le cadre, me disaient « Mais de toute façon, t'es professionnelle de la petite enfance, toi, t'as pas de soucis avec ta fille. »
Ouais, tranquille.
Et donc, du coup, voilà, ça a été encore plus difficile d'exposer mes doutes, de partager voilà, mes incertitudes qu'on a tous, tout le temps, en tant que parents. Ouais.
Alors, on les voit, on a entendu ces parents inquiets, parfois, qui ont des peurs. Vous représentez un relais Petite Enfance qui est, vous m'avez dit, une porte d'entrée, un guichet unique. En quoi c'est un guichet unique? Qu'est-ce qu'on y trouve? Beaucoup de solutions hein, quand on est nouveau parent chez vous, c'est ça? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce relais?
En tout cas, un accueil et un accompagnement pour pouvoir étudier vraiment la situation de la famille, les besoins et envisager ensemble les solutions qui existent sur le territoire. Et ça, c'est vraiment la volonté de pouvoir être porte d'entrée, où on est le premier interlocuteur quand la famille rencontre, se pose la question ou a un besoin de garde pour son enfant. Et du coup, de pouvoir voilà, étudier voilà, les besoins et envisager ensemble en fonction de ce qui existe sur le territoire.
Je parlais dans l'introduction du premier départ de l'enfant, bon c'était facile, de la maison, parce que c'est ça hein, quand on va le laisser. Quel est le niveau d'exigence justement des parents quand ils arrivent à vous pour laisser leur enfant et qu'est-ce que vous mettez en place, je vais dire pour les rassurer, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même forcément des inquiétudes. Est-ce qu'on sent le niveau assez élevé?
Oui,
la pression.
Oui, bien sûr. Mais je dirais qu'il y a autant d'exigences qu'il y a de famille et d'enfants à garder. Parce qu'il y a le parcours avant l'arrivée de l'enfant, il y a le vécu aussi individuel de chaque parent, de comment est-ce qu'il a vécu son mode de garde, voilà, s'il y a eu des inquiétudes, voire des choses qui se sont mal passées, ça peut créer aussi des exigences et des conditions particulières pour envisager le mode de garde. Après, oui, c'est l'idée, c'est de pouvoir composer entre des exigences, les écouter, les accueillir, et puis après les placer aussi dans la réalité de ce qui est possible, voilà, sur les modes de garde collectifs, individuels.
On va les voir, ils sont effectivement plusieurs, ce qui peut-être effectivement trouble un peu, parce qu'on se dit, ah, est-ce que je vais faire le bon choix ? Mais on va voir que chacun a ses avantages, et on parlera des avantages, c'est déjà bien. Est-ce que vous êtes parfois les acteurs du répit ? On parle beaucoup du répit de la parentalité, du répit des parents, après l'arrivée de l'enfant. Les acteurs, dans le sens, avec vous, on va pouvoir avancer vers une forme de répit. La machine à laver est passée, les 300%, et on arrive chez vous, et on sent que le parent va pouvoir se poser un peu.
Oui, dans la projection, puisque enfin, je suis pas un mode de garde en soi,
oui,
mais par contre, on va pouvoir réfléchir, ouais, voilà, à projeter le répit, projeter la garde, et du coup, effectivement, ça peut être vécu déjà comme une forme de soulagement quand il y a ce besoin-là, parce qu'il y a des pistes, des solutions qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des contacts, des structures, des services qui sont présentés, proposés.
Avec vous, c'est un seul interlocuteur, si j'entends Guichet Unique. Ça veut dire qu'avant, il y avait plusieurs, hein, c'est ça, et puis ça a été regroupé. Pourquoi aujourd'hui Guichet Unique, juste...
À une période, les familles s'adressaient directement à la structure qu'ils envisageaient, je pense, pour les crèches notamment. Ouais. Et là, l'idée, c'est que vraiment, il y ait un interlocuteur, un guichet unique qui présente l'ensemble des modes de garde possibles sur le territoire pour être éventuellement réorienté vers la crèche si ça... C'est la solution envisagée.
Alors, c'est ce que disait Caroline Monod, c'est que les crèches, vous aussi d'ailleurs, les crèches sont très prisées. Comment vous faites face à un parent qui n'imagine pas son enfant ailleurs qu'en crèche, mais qui ne peut pas avoir de place ? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Comment vous avancez ?
Eh bien, c'est l'accompagner, de savoir pourquoi il y a cette volonté exclusive de l'accueil en crèche, l'accueil collectif. Si c'est vraiment le côté collectif qui intéresse la famille, il y a des maisons d'assistantes maternelles qui existent, en tout cas sur le territoire sur lequel je travaille, où c'est un groupement de professionnels, donc assistantes maternelles agréées, qui travaillent dans un local dédié pour accueillir plusieurs enfants ensemble et travailler en équipe. Donc on retrouve cette idée-là du collectif. Et puis des fois, le métier d'assistante maternelle est moins connu, ou en tout cas moins bien vu, alors qu'il présente beaucoup d'avantages sur l'accueil notamment des tout-petits, qui est très individualisé, familial, et où du coup, ça, les parents n'ont pas forcément cette vision-là parce qu'ils ne la connaissent pas.
Et que l'on retrouve assistante maternelle parfois dans des lieux collectifs comme les médiathèques, je le dis parce que ça m'arrive souvent de voir ça, deux, trois assistantes avec leurs enfants au milieu d'une médiathèque. Finalement, on se retrouve quand même dans un lieu assez collectif pour les enfants. Justement, vous avez comment vous faites cette orientation vers l'un ou vers l'autre à un moment donné, c'est-à-dire est-ce que vous allez dire, vous pouvez pas dire c'est mieux, c'est moins bien, enfin on n'est pas là-dessus. Comment se fait l'orientation de manière générale, pas forcément sur un parent qui veut un mode de garde ou un autre. Quels sont les critères?
C'est vraiment l'écoute de la famille pour savoir comment eux ont construit leur projection, pour après pouvoir orienter la famille sur si eux ils n'envisageaient qu'une assistante maternelle, mais qu'au regard de leurs besoins c'est plutôt de l'accueil collectif qui pourrait y répondre, bah on ira chercher qu'est-ce qui pourra être avantageux dans leur situation, et inversement si c'est vraiment au cas par cas, enfin, ou alors c'est une présentation très déroulée de tous les modes de garde, voilà, sur le...
Alors, dans le portrait de Malika, tout à l'heure, on a parlé d'emploi, puisqu'elle a dit « je ne travaillais pas, mon enfant n'était pas en crèche ». Mais une fois les moments passés avec son enfant, il faut envisager la reprise du travail. Parfois, il y a la question de l'absence de travail ou du besoin d'insertion dans la vie professionnelle. Il y a aujourd'hui AVIP, vocation d'insertion professionnelle. C'est un label mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de 2018. En quoi consiste ce dispositif? Est-ce que vous sentez un vrai souffle, en tout cas un intérêt fort du fait qu'il existe ?
Oui, oui, ça a permis l'accès à un mode de garde de famille qui était plutôt isolé, plutôt éloigné, on va dire, de l'emploi. Et c'est un partenariat qui a ouvert les structures collectives vers les professionnels de l'insertion, avec un fonctionnement avec des contrats tripartites, où le principe, c'est que le professionnel d'insertion, donc ça peut être France Travail, les missions locales, oriente une famille sur une place en crèche, puisque le dispositif permet à la crèche partenaire de dédier un nombre de places pour ce type d'orientation.
On se rapproche vers la fin, mais il y a quand même une anecdote intéressante, c'est que ce placement en crèche de l'enfant a permis à une maman, je crois, de retrouver un emploi, justement. Donc ça fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette situation que vous avez connue?
Tout à fait. C'est une maman que j'avais rencontrée dans le cadre de sa demande de place en crèche initiale ordinaire. Et elle avait un projet pour se former en petite enfance, pour passer le CAP d'accompagnant éducatif petite enfance. Et en fait, elle était parallèlement accompagnée par la mission locale du territoire, qui l'a orientée sur une place à vie pour faire garder sa fille. Et donc, elle a pu préparer son CAP, le réussir. Et elle travaille actuellement en crèche. Et sa fille, après avoir bénéficié du dispositif, est maintenant à l'école.
On se rapproche de l'agenda de cette émission. Peut-être vous avez 3 ateliers semaine, vous allez nous dire quand c'est, ce qu'on fait dans ces ateliers en quelques secondes.
Oui, on parlait du coup de l'intérêt de l'accueil chez une assistante maternelle. C'est un service aussi qui est proposé par le relais petite enfance, c'est-à-dire qu'il y a 3 temps d'animation où les assistantes maternelles peuvent se rendre avec les enfants qu'elles accueillent pour pouvoir rencontrer d'autres professionnels, et que les enfants qui viennent à ces temps d'animation rencontrent aussi d'autres enfants et découvrent la socialisation en plus grand groupe qu'au domicile de l'assistante maternelle.
Elsa Doré, merci. Je rappelle que vous êtes référente relais petite enfance de la communauté de communes Crétois Pays de Saillant, et vous êtes basée à Cré. On n'hésite pas à venir vous voir, à se renseigner, et puis on passe un coup de fil et après on est reçu assez rapidement, j'imagine, en termes de délai.
Oui, oui.
Alors n'hésitez pas, voilà, qu'on aille vous rencontrer. On va continuer cette émission avec l'agenda.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Et aujourd'hui, Isabelle est au micro. Rebonjour Isabelle, attendez.
Rebonjour.
Merci d'être avec nous. Mais avant de vous faire présenter une partie d'agenda, eh bien, 2 personnes sont venues au micro. Séverine Marneron, on la connaît bien. Elle s'était prêtée au portrait il y a quelques années. Je me rappelle être allée dans un bureau de l'Aglo. Vous êtes responsable de l'unité parentalité à Valence, Roman, Aglo. Bonjour.
Bonjour,
tout
à fait.
Dites-moi, qu'est-ce que vous nous annoncez?
Eh bien, je vais vous parler des rendez-vous des parents, puisque du coup, c'est un rendez-vous à thématique à destination des familles, qui se passe tous les mois. Et donc, je vais vous parler des prochains qui vont arriver. Le premier, ce sera le 14 janvier avec les médias numériques. Donc, pour parler des médias numériques à la fois pour les tout petits et jusqu'à 12 ans. Ça a été une demande, une commande d'un élu de la commune de Valherbasse. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir s'y adapter. Donc, ça se passera à l'espace Auterbasse le 14 janvier. Le suivant, c'est un rendez-vous le 11 février, donc sur je ne sais plus quoi faire pour aider mon enfant à bien dormir, donc pour aider sur une thématique que nous connaissons tous et toutes, le sommeil de son enfant, qui n'a pas un jour eu quelques difficultés.
On va faire une émission là-dessus, que le sommeil. Hein.
Complètement, pour aider des parents désespérés. Donc on tâchera d'y répondre, donc ça se passera à la MPT du Petit Charan à Valence. Et le dernier du prochain trimestre, ce sera le 11 mars sur les parents et l'hypersensibilité quand les émotions éduquent.
Merci Séverine Marneron. Noémie Barraud, vous nous accueillez, on vous remercie de nous accueillir ici. Vous êtes animatrice DSL à la maison de quartier Saint-Nicolas. DSL.
Oui, c'est pas la téléphonie, non, c'est développement social local.
Pardon, je l'avais pas sur papier, désolé. Alors, 2-3 événements rapidement.
Oui, alors juste nous, je voulais parler des ateliers parents-enfants qu'on fait à la maison de quartier. On en fait un samedi 21 décembre avec Break for Kids de 10h à midi à partir de 4 ans. On va faire une grande fresque en Lego. Et le 18 décembre, Radio Méga est là, il y a un atelier parents-enfants pour découvrir la radio.
Bah oui.
Voilà, on tout simplement. Donc, il faut juste appeler la maison de quartier, s'inscrire et ça suffit. Et juste un événement, on fait un réveillon solidaire le 23 décembre avec un spectacle à 17h, un repas et un karaoké, tout simplement.
Il est top ce repas pour l'avoir fait les années précédentes. On sera pas là pendant le repas, mais il est top. Isabelle Tormé, allez-vous terminer avec une dernière info? Très courte.
Oui, très courte. En partenariat avec Le Luxe, une nouvelle soirée ciné-débat. Ça se passera le jeudi 30 janvier à 20h au Luxe avec le film « Apprendre » et qui est réalisé par Claire Simon. Et on aura la chance de la voir pour échanger avec elle autour de cette thématique.
Merci Isabelle, merci à nos partenaires pour cet agenda en live. Ce 40e numéro de Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Caroline Bonneau, conseillère thématique Petite Enfance au sein de la CAF de la Drôme. Elles adoraient référent d'eux les petites enfaces de la enfance de la Comcom Crétois Pays de Saillant et Malika pour son témoignage. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDA 26 et plus particulièrement à Isabelle, Stéphanie et Agnès pour leur confiance et l'accompagnement des professionnels au micro depuis le début. Merci à Raphaël pour les montages et la réalisation de cette émission, à Ben pour la com autour de l'événement. Merci à la maison de quartier Saint-Nicolas de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à tous les partenaires, les professionnels du réseau Réap qui font vivre ce magazine depuis 7 ans. Merci aux parents qui témoignent à nos micros, à celles et ceux qui nous écoutent dans la Drôme et ailleurs. La 41e de Parentalité Mon Amour aura lieu le 12 février 2025. On vous dira la thématique plus tard, Stéphanie. J'ai Isabelle en face de moi, pardon. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Retrouvez-la sur Soleil FM, Erdivois, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Sans oublier udav26.fr, caf.fr et les plateformes de streaming. Je terminerai cette émission par un dernier remerciement à celles sans qui tout cela n'aurait pas vu le jour. Mes deux filles, Ella et Adèle, qui, quand je les écoute attentivement, m'apprennent à avancer sur le chemin de la parentalité. Prenez soin de vous, à très bientôt dans Parentalité Mon Amour.
Petites échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.